qui avec une dinde ou qui avec une coquille d'huître, nous allons nous efforcer de vous donner les derniers sacrements du noir. Aujourd'hui, nous allons voyager. À Cuba, tout d'abord, en compagnie de Frank Membribe, que nous passons à l'interrogatoire pour Havanaise, un roman paru au Orsin. À Téhéran ensuite, puisque nous nous étriperons sur un film qui traite du trafic de drogue en Iran d'une manière absolument fantastique. Et oui, je sais, il faut oser accoler trafic de drogue et fantastique. Mais comme c'est la fin d'année, j'ose. Pas de saxo de Toups cette fois-ci, il est en dérangement. Mais Luc nous racontera sa toute première fois avec Peter Cheney et ça vaut forcément le détour. La programmation musicale est assurée par notre gizmo national à nous, à savoir Jean-François Micard. Avec vous aujourd'hui, Linda, Luc, Toups et Julien pour une émission enregistrée dans les conditions du confinement. Vous écoutez Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique maestro.
Radio G 101.5 FM.
Je hais les choix musicaux de Jean-François Micard, surtout quand il nous propose, comme c'est le cas ici, un groupe islandais imprononçable et un titre tout aussi islandais et tout aussi imprononçable. Alors, je me lance. Le groupe s'appelle Kaelan Mikla. Bon, ça c'est plutôt facile. Et le titre de leur chanson, Solstodur, tiré de l'album Undir Koldum Nordur Josum, sorti en 2021. Faisons confiance à Gizmo. Le groupe des sorcières islandaises nous propose une chanson aux thématiques puisées dans les rites païens. Si seulement notre auteur de la quinzaine interviewé avait été Arnaldur Indridason ou Arni Thorarinson, il aurait pu nous aider sur ce coup. Mais il s'agit de Frank Membrib. Et comme son nom l'indique, ses origines à lui sont plus espagnoles qu'islandaises. Frank Membrib, c'est un auteur discret attiré par l'île de Cuba. Avec Havanaise, il récidive et nous envoie en compagnie de deux producteurs de musique terribles, la musique, pas les producteurs. Eux, c'est Hervé Vincent. Il débarque à la Havane le 31 décembre 2008. Ils posent leurs valises à l'hôtel, déposent leur argent dans le coffre-fort et partent à l'assaut de la nuit. Hervé se révèle à Vincent un musicien hors pair. Puis Hervé et Vincent s'accrochent. Une dispute aussi nocturne qu'avinée. Et voilà Hervé partant dans la nuit. Au matin, Vincent est surpris de ne pas le découvrir cuvant dans leur chambre d'hôtel. Plus tard, il apprendra sa mort. Un peu plus tard encore, il pensera que la police a bouclé vite fait mal fait son enquête. Alors, il partira chercher sa vérité. Et cette quête l'emmènera vers des sentiers de traverse qu'il n'imaginait pas. Et puis, il fera la rencontre de trois femmes. Et ça, ce n'est pas une autre histoire. Ce qu'il y a de sûr dans cette histoire, c'est que son séjour sur l'île en pleine festivité du 50e anniversaire de la Révolution sera inoubliable à plus d'un titre. Hervé, lui, aura eu sa crise de la cinquantaine comme dernière crise, mais il aura aussi laissé un testament que Vincent s'acharnera à faire respecter. On écoute maintenant un extrait du roman lu par Linda. Puis on enchaîne avec l'interview de Frank Membrib.
Tu connais Paraoka ? Lui demande le gamin. Non. C'est dans l'Oriente. Notre île est comme un long lézard vert. Ma mère habitait tout au bout de la gueule du lézard, la Punta de Maïsi, dans un village de pêcheurs près du Grand Phare. Je suis née là-bas. Mon père a été mordu par un requin quand j'avais 7 ans. Avec sa jambe raide, il ne pouvait plus pêcher. Ils sont partis à Guantanamo pour trouver du travail, mais il n'y en avait pas, alors on s'est retrouvés à la Havane, chez ma tante. Ma mère est femme de chambre dans un hôtel. Et ton père? Il traîne sa jambe entre deux barres. Des fois, il tient la clave dans un groupe de sonnes traditionnels. Ça, c'est les jours où il n'est pas bourré. Il marche dans des rues interlopes où les bâtiments sont dans le pire état de dégradation de tout ce que Vincent a vu jusqu'à présent. Et toi? Tu es vraiment producteur de musique en France? Oui. Je te préviens, Barbarito se prend pour un musicien, mais il est très mauvais. Le reggaeton, déjà à la base c'est de la merde, mais lui en plus, même dans ce style merdique, il est pas bon, t'as qu'à voir. Je vois très bien. Les immeubles délabrés font place à des friches industrielles des années 70. Vincent se retourne toutes les deux minutes pour vérifier si des flics ne patrouillent pas dans les parages. Il longe la clôture grillagée d'une ancienne fabrique de fruits secs. Miguel s'arrête devant un passage d'1,50 m ouvert à la pince coupante. Il franchit la clôture. Attention, c'est rouillé. Vincent se baisse pour le suivre. Des baies vitrées du hangar sont constellées de trous gros comme le poing. Des gravats et des détritus encombrent la cour. Miguel se retourne en posant un index sur sa bouche pour lui signifier de se taire. Il avance comme un félin, en faisant le moins de bruit possible, Au bout du hangar, il pousse délicatement la porte branlante d'un bureau de contremaître, dont tous les volets sont clos. Sans hésiter, il se poste dans l'obscurité devant un trou de souris qui diffuse un rayon de lumière poussiéreuse. Ils sont là. Regarde. Vincent prend sa place. De l'autre côté d'un terre-plein défoncé, il voit un quai de déchargement à l'extrémité duquel se trouve une porte qui semble mener sous le bâtiment. Deux jeunes hommes sont assis de chaque côté de cette entrée. Qui sont-ils ?
La bande à Barbarito.
Qu'est-ce qu'ils font là ?
Ils profitent de Yolanda.
Elle est là-dedans ?
Ah, s'ils montent la garde, oui.
Elle n'est pas une corbeja. Je suis sûre qu'elle n'est pas d'accord.
Et d'accord, pourquoi ? Mais t'es débile ou quoi ? Faut te faire un dessin ?
C'est tellement écœurant que Vincent met du temps à réaliser.
Des hommes viennent, reprend le gamin, avec de l'argent, ils passent un moment dans la cave et ils repartent plus légers en sifflotant parce qu'ils se sont vidés les couilles. Ça te va comme explication ?
Quel genre de type ?
Pas des clodos, tiens. Des monsieur propres en costard.
Ça dure depuis longtemps ?
J'en sais rien.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Rien. On attend.
Tu voulais la voir ?
Tu la verras.
Pour lui parler,
ça sera une autre paire de manches.
Franck Montbrib, bonjour. Pourquoi cette fascination pour Cuba ?
Alors, parce que bon, je suis musicien, passionné par la musique et notamment la musique latine. Et puis, j'ai effectué un voyage en 2002 où j'ai séjourné environ 3 semaines. Et ce voyage, comme beaucoup de gens qui sont partis là-bas, m'a beaucoup marqué. Voilà, donc j'avais été un peu parti avec l'idée d'en ramener un roman, puisque j'écrivais déjà à l'époque, ce qui a été le cas. Et en réalité, mon premier roman publié, ça a été L'ouverture cubaine, qui a été republié, donc c'était en 2004, qui a été republié en 2007 sous le titre de Cubaine. Donc voilà, et depuis cette époque-là, je me suis toujours tenu au courant de ce qui se passait. J'ai vu des documentaires, des films, ça n'a fait qu'augmenter mon intérêt pour le sujet.
Alors, dans ce roman, Hervé et Vincent sont les deux principaux protagonistes, enfin du moins les deux premiers protagonistes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Cuba et qui sont-ils ?
Alors, ce sont deux producteurs de musique à l'époque qui ont créé un site de téléchargement, qui organise aussi des tournées et qui se sont rendu compte que le reggaeton, qui est un genre musical qui a explosé dans ces années-là, à la fin des années 2000, ils souhaitent le faire venir en France et donc ils viennent tout simplement pour auditionner des groupes cubains pour tenter de leur faire signer des contrats.
Et alors, ils arrivent déjà le 31 décembre, ce qui est quand même peu commun parce qu'ils vont faire une audition le 1er janvier. Et en plus, au même moment, c'est l'anniversaire des 50 ans de la Révolution cubaine. Et ça, ça fait aussi écho quasiment à l'âge de deux des protagonistes. Qu'est-ce qui représente cet anniversaire ?
Alors, moi aussi, je suis un cinquantenaire maintenant, et donc souvent on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait en un demi-siècle, et c'est la même chose pour une révolution, quoi. Elle a suscité beaucoup d'espoir, elle a fait couler beaucoup d'encre, etc. Et puis, au bout de 50 ans, on s'aperçoit quand on connaît un peu le sujet qu'elle est dans une impasse, hein, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Mais donc effectivement, il y a un parallèle, quoi. Au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait ?
Et on a un peu l'impression que les diagonales des deux personnages, Hervé et Vincent, elles sont diamétralement opposées. C'est quoi votre avis à vous ?
On peut dire ça parce que effectivement, il y en a un qui arrive, qui est dans la maturité, qui se pose beaucoup de questions, qui a été obligé de, comme beaucoup de gens, à faire des renoncements pour gagner sa vie. Et puis à côté de ça, le jeune, lui, il est fringant. Il a eu pas mal de succès en animant des émissions de radio. Et donc ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, même s'ils sont associés. Et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer un peu le clash dans dans la première partie du livre et qui va expliquer la suite.
Il y a deux personnages féminins qui sont importants dans le roman, un autre en filigrane. Moi, il y a surtout Clara qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle apporte à votre intrigue et qui est-elle ?
Clara, c'est pour moi un petit peu l'archétype de la jeunesse cubaine d'aujourd'hui. Alors même si ça se passe il y a quelques années, malheureusement la situation elle est quasiment la même aujourd'hui. La jeunesse cubaine, elle pose un regard un peu désabusé sur cette révolution dont on leur rabat les oreilles, constamment. Et eux, ils aimeraient bien pouvoir accéder à un mode de vie moins difficile. Parce qu'ils ne sont pas coupés du monde, ils ont quand même accès plus ou moins avec Internet, avec difficulté, mais en ayant des contacts avec les touristes, avec des étrangers qui viennent sur l'île. Et donc, et en même temps aussi, elle témoigne du fait que ils ne sont pas vraiment libres, puisque finalement elle est amenée à travailler pour la police parce qu'elle souhaite améliorer les conditions de vie de son frère qui est emprisonné. Ça, c'est malheureusement, ce sont des choses qui se passent là-bas.
Oui, on a tous un point faible et dans ce genre de régime, on s'est appuyé sur les points faibles. Cette aventure policière, même si elle traite de sujets durs, est quand même assez légère. Et en plus, elle a un détective amateur. Moi, je trouve qu'elle est digne d'un poulpe. Mais comment vous l'avez construite, vous ?
Alors, au départ, c'était un projet pour la télévision. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai publié mon roman sur Cuba, un réalisateur qui s'appelle Bruno Gantillon, qui a fait beaucoup de cinéma et puis après pas mal de télévision aussi, recherchait un auteur français ayant écrit sur Cuba, un auteur de polar, et comme il n'y en avait pas beaucoup, il m'a contacté et il m'a proposé de développer ce projet qui se faisait justement à l'occasion des festivités qui aurait pour le 50e anniversaire de la Révolution cubaine. Donc en fait, voilà, l'idée originale, c'est moi qui l'ai proposée, et puis on a développé ensemble, à quatre mains, un traitement d'une 10-12 pages. Et puis bon, comme au moins 9 projets sur 10 pour l'audiovisuel finissent dans les tiroirs, ben celui-là, il n'a jamais été réalisé. Mais voilà, c'est resté dans mes documents, et puis j'ai eu envie finalement d'en faire un roman, et ça a mis du temps, mais voilà. Le confinement de 2020 aidant, j'ai eu un peu plus de temps et ça m'a permis de le développer.
Alors justement, quelles sont les thématiques à proprement parler cubaines que vous avez développées dans ce roman ?
C'est ce que la révolution n'a pas réussi à faire aboutir, parce qu'on a vraiment l'impression d'une société qui est en panne. Donc, alors c'est vrai que c'est dû en partie à l'embargo, aux difficultés qui sont liées à cet aspect-là, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'acquis et d'avancer dans les premières années, et puis c'est souvent la médecine gratuite, l'éducation, etc. Mais ensuite, voilà, la vie quotidienne est infernale, quoi. Le niveau de vie est extrêmement faible, et puis surtout, il n'y a aucune liberté d'expression, quoi. C'est le parti unique. Voilà, on n'a pas le droit d'exprimer une opinion qui soit un tout petit peu différente du discours officiel, et ça, à la longue, c'est pas supportable, quoi. Même si le risque, effectivement, ça serait si le régime tombait, ça serait de verser dans, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, de verser dans un capitalisme débridé. C'est pas souhaitable non plus, bien sûr que non, mais il faut qu'il y ait une transition vers autre chose, tout en essayant de garder quand même la majeure partie des acquis. Alors ça va être compliqué, c'est absolument certain. Mais on voit bien avec les événements de ces derniers mois que ça devient de plus en plus difficile, quoi. Les gens n'acceptent plus, et de moins en moins, cette chape de plomb qui est toujours refermée sur Cuba.
Donc dans ce roman, il est beaucoup question de musique, puisque donc les deux principaux protagonistes qui débarquent sont donc des producteurs de musique. La musique va accompagner le roman, puisqu'on va se balader de bar en bar ou même dans d'autres salles de spectacle. C'est quoi votre rapport, vous, avec la musique cubaine ?
À titre personnel comme musicien, pas direct, puisque bon, moi je suis guitariste, mais j'ai surtout joué du blues rock, mais bon, j'adore les ambiances des piano bars, voilà, des endroits où on peut où on peut boire un verre en écoutant de la musique live, tout ça j'adore. Et c'est vrai qu'à Cuba, la musique est absolument omniprésente, quoi. Les gens jouent dans la rue, dans les bars, dans les restaurants, chez eux. Ils dansent, voilà. C'est un peu peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est que malgré des difficultés terribles, c'est un peuple qui reste gay, quoi. Je pense que nous, à leur place, on serait totalement dépressifs. Ils arrivent malgré tout à garder une forme de joie de vivre. Et je trouve que c'est vraiment admirable.
Et justement, en parlant de joie de vivre et de musique, on écoute quoi comme morceau maintenant ?
Alors, moi, j'ai proposé qu'on écoute un morceau d'Eddie Palmieri, qui est un pianiste. Alors, il n'est pas cubain, il est né dans le Bronx, à New York, et ses parents étaient portoricains. Il était un peu d'origine corse aussi, c'est un grand nom de la musique latine. Et donc, le morceau, ça sera Café. Moi, je trouve que voilà, c'est un musicien qui est la preuve qu'on peut faire de la musique, composer de la musique et jouer de la musique populaire, tout en étant créatif. C'est pour moi, c'est l'exact inverse du style de musique qui est le reggaeton.
Eh bien, Franck Membrib, merci pour cette interview. Je rappelle le titre de votre roman, Havanaise, et c'est chez l'éditeur Avray Orsin. À bientôt.
Merci, au revoir.
101.5 FM.
Vous écoutiez Café, un morceau d'Eddie Palmieri, choix musical de Frank Membribe, un auteur que nous avons donc interviewé à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Havanaise, paru au Orsin. Mais c'est maintenant l'heure de la toute première fois de Luc, qui en a eu décidément beaucoup des toutes premières fois. Et il se murmure aujourd'hui que c'est en compagnie de gars pas très fréquentables. Alors Luc, c'était avec qui et surtout, c'était comment ?
Aujourd'hui, c'est à la naissance d'un enquêteur mythique que l'on va assister, Lemmy Cowshon, imaginé par Peter Chenet. La toute première fois pour Peter Chenet, son tout premier roman noir, porte le titre de « Cet homme est dangereux » et il est publié en 1936. Peter Chenet, citoyen de sa très gracieuse majesté, médaillé lors de la Première Guerre mondiale, auteur de poèmes, ayant exercé pas mal de métiers différents, dont celui de commandant en second de la police lors de la grève générale de 1926. Il va fonder une agence de police privée, mais c'est un sale petit réactionnaire qui affectionne les idées nauséabondes au point de rejoindre le New Party, scission du parti travailliste créé par Oswald Mosley. Oswald Mosley, antisémite, admirateur de Mussolini et Hitler, fondera ensuite le British Union of Fascists. Tout est dit, mais Peter Chenet ne le suivra pas jusque-là. Le démon de l'écriture le démangeait. Ce premier roman, Cet homme est dangereux, est un coup de maître. L'histoire est complexe. Lemmy Cowshon, présenté comme un gangster américain plus qu'expérimenté, ayant frayé avec tout ce que peut compter la pègre américaine de voyous et de gangsters, imagine de kidnapper Miranda Van Zelden, fille unique d'un richissime homme d'affaires américain. Mais voilà Tipa que le sieur Siegela a la judicieuse même idée. Le sieur Siegela est un maître ex-gangstérisme. Il est le gangster alpha. Il est au sommet de la chaîne alimentaire et en dessous de lui grenouillent tous les seconds couteaux, toutes les petites frappes, tous les califes qui veulent devenir califes à la place du calife. Il va contacter Lemmy Cowshon par l'intermédiaire de Constance pour l'associer. Étrangement, Lemmy Cowshon, bien que gangster expérimenté et plutôt loup solitaire, va accepter. Entre en jeu Goyaz, concurrent de Siegela, mais qui va accepter de s'associer avec lui. Mais dans ce monde de renards et de traîtres, il semble qu'il ne faille compter sur personne. Goyaz va tenter de doubler Siegela en enlevant en premier Miranda. Mal va lui en prendre. Lemmy Cowshon, envoyé par Siegela, va liquider froidement Goyaz. Et c'est à ce moment qu'a lieu le twist, au milieu du roman. Et ce n'est pas divulgaché que de le révéler. Lemmy Cowshon n'est pas un gangster, mais un agent des services secrets des États-Unis, infiltré dans le milieu uniquement pour venir à bout de Siegela. Sous sa fausse identité, il va contribuer à faire enlever Miranda, mais à chaque fois, les choses lui échappent. Constance est toujours là, usant même de la séduction, mais ce n'est que fourberie. Bien que marié à une petite frappe un peu basse du front, il semble qu'elle en pince pour Siegela, au point de faire tout pour lui. Ce roman étrange préfigure, avec presque 20 ans d'avance, James Bond, qui ne verra le jour, lui, qu'en 1953. Un homme plutôt macho, viril, séducteur, auprès de qui les femmes ne peuvent pas résister et qui vient à bout de toutes les situations. La seule différence, Lemmy Cowshon est un Américain qui parle l'argot new-yorkais. Il n'a rien à voir avec le so British 007. L'étrangeté tient justement à cette nationalité de Lemmy Cowshon. Dans cette première aventure, on ne comprend pas pourquoi l'action se déroule en Angleterre. Mais voilà, l'Amérique est, semble-t-il, un mythe pour tout auteur de polar, et Peter Chenet y trouve certainement son inspiration. William Burnett, Dashiell Hammett étaient déjà des maîtres à l'époque. L'étrangeté tient aussi au déroulement du récit. Tant que l'identité de Lemmy Cowshon n'a pas été révélée au lecteur, on ne croit pas à l'histoire. Le personnage est irréaliste, trop hâbleur, certainement mythomane. Après la révélation, le roman devient plus dense. Lemmy Cowshon s'humanise et son ironie caustique relève plus de la bravade que d'un humour à la petite semaine. On est bien dans un roman noir, il montre la face sombre de la société. Peter Chenet ne peut s'empêcher de s'enorgueillir du fonctionnement de la société britannique, décontracté et irréprochable en l'opposant à la société américaine. Lemmy Cowshon ne veut pas livrer Siegela à la justice américaine, présentée comme corrompue, et dont les procédures laissent la possibilité aux gangsters de lui échapper par tous les stratagèmes juridiques possibles. Peter Chenet va faire vivre son héros pendant 10 aventures en 9 ans, dont le célèbre La Môme Vert de Gris. Il va créer deux autres personnages, Slim Callaghan et Peter Cale. Lemmy Cowshon va prendre les traits d'Eddie Constantine au cinéma, plusieurs fois mis en scène par Bernard Bordery, mais aussi par Henri Verneuil et surtout par Jean-Luc Godard dans Alphaville. Mais ceci est une autre histoire.
J'attendais un peu plus d'épices dans cette toute première fois. Mais bon, je retournerai très bientôt voir Peter Chenet et ce bougre de Lemmy Cowshon. Retour maintenant à la dure réalité. Nous continuons dans la fiction, mais la fiction dont nous allons maintenant parler ressemble fort au réel. C'est l'heure de notre débat DVD. Et chez Whiteside vient de sortir La Loi de Téhéran, film de 2019 du très jeune réalisateur Saed Roustaï. Luc nous en fait le pitch, et puis nous enchaînons avec un extrait. Je vous préviens, c'est en perçant dans le texte avec un brin de musique. Je reviendrai après vous en parler. Luc, c'est à toi.
Tout commence par une descente de flic qui déboule en Citroën Xantia pour interpeller un dealer de drogue dans un quartier de Téhéran. Et dès ce premier plan, on se croit revenu dans un western de Ennio Morricone. Du soleil, un policier de la brigade des stupes qui longe un mur, le pistolet au poing. Il suit l'ombre du dealer qui marche sur le toit de la maison au-dessus de lui. Et une course-poursuite s'engage tout simplement dingue et qui va se conclure par une idée de mise en scène percutante. 4 minutes 37 secondes de pur cinéma. La quête de Samad, jouée par Peyman Mahadi, flic dans la brigade des stupes, est basique. Mettre la main sur Nasser Karzad, joué par Navid Mohammadzadeh, un des barons de la drogue de Téhéran. Grâce à ses indices, il va le localiser, l'interpeller et le mettre en prison. Mais les choses ne vont loin de là pas être aussi simples. La Loi de Téhéran, c'est à la fois un polar avec des flics et des voyous, c'est aussi un film de prison et c'est en même temps un film sociologique. Saed Roustaï montre un Téhéran comme on ne peut même pas l'imaginer. La descente de police en moto dans le bidonville qui accueille tous les toxicos de la ville est hallucinante. Toutes les séquences de prison, de la surpopulation aux méthodes des gardiens sont totalement cauchemardesques. Et enfin, la corruption de la police s'exerce à tous les niveaux de la hiérarchie. La Loi de Téhéran est un film sidérant qui réconcilie avec le cinéma.
بالاخره که رز جیمناستیکی تو عوض کردی یا نه؟ رفتی باشی همون دوستم که گفتم؟
بله هموش زبان شمالی شده
آخرش چرخ و فلک رو یاد گرفتی؟
بله
دیگه چی ها بلدی؟
پیچ چرخ و فلک بالانس بود قرص
آقا الان همه اینا رو بلدی بزنی؟
اینجا؟
بله همینجا
خیلی بسان خیلی تنگه نمیتونم
چرا نمیتونه؟ میتونم الان من لباساشو در میارم میزنه
Si vous n'avez rien compris à l'extrait, c'est normal. Il se situe vers la fin du film. Nous sommes dans une prison et le prisonnier fait face à sa famille pour une ultime rencontre avant d'être pendu. Luc a bien résumé le film. La Loi de Téhéran, c'est un film dur sur la lutte contre le trafic de drogue en Iran et sur la corruption. Alors bien sûr, il y a plusieurs éléments qui vont nous fasciner dans ce film de plus de 2 heures. Déjà, il nous dépayse sans nous dépayser. La lutte contre la drogue, même vue à travers un prisme exotique iranien, est vouée à l'échec comme toutes les luttes contre la drogue. principalement parce qu'on combat les effets et pas les causes. Et là-dessus, la société iranienne n'échappe en rien à cette loi universelle. Mais c'est bien la façon dont Saïd Roustaï nous présente les choses qui est fascinante. C'est à la fois méticuleux du point de vue des forces de l'ordre, inquiétant et chaotique. Les premières minutes avec la descente de flics plantent le décor. L'arrivée des auxiliaires féminines en burqa, Linda et Toub s'en parleront, détonne. Le chaos, c'est à la fois celui dont parle Luc au sujet d'un squat de drogués, mais c'est également cette prison saturée de prisonniers où une paire de chaussures, une cigarette et un coup de téléphone se monnaient au prix fort. Ça, c'est normal. Si vous avez vu tous les films américains du genre, vous ne serez pas dépaysé, pensez-vous. Eh bien, vous faites erreur. Plongez dans ce film, vous comprendrez pourquoi. Il faut ajouter que les flics sont à la merci des juges et que la parole d'un flic ne vaut pas grand-chose. Et puis, il y a cette confrontation entre le flic, incarné par Peyman Mahadi, et le trafiquant, Navid Mohammadzadeh, car nous sommes bien en présence de personnages gris. Pire, à mesure que le film avance, on se prend d'empathie pour le trafiquant au détriment du flic, même si, je dois le reconnaître, la fin lui redonne un peu d'humanité à lui. C'est brillant, c'est violent, et c'est à mettre en parallèle avec d'autres films tout aussi brillants comme l'Indien Ugly ou l'Égyptien Le Caire Confidential. Je laisse maintenant la parole à mes camarades.
Bon alors, qu'est-ce qu'on connaît réellement de l'Iran ? C'est une république islamique dirigée par un président sous l'égide du guide de la révolution. Ce sont des femmes tout de noir vêtues. C'est une société où la transgression n'est même pas imaginable. Et au cinéma, ce sont les films tendance à réessayer d'Abbas Kiarostami, de Jafar Panahi ou d'Asghar Farhadi et une comédienne, l'emblématique Golshifteh Farahani. Mais voilà Tipa qu'un jeune troublion de tout juste 30 ans s'empare d'une caméra et nous retourne la tête. La loi de Téhéran, c'est Scorsese qui aurait rencontré Ennio Morricone. Saïd Roustaï joue les gammes du polar comme un vieux routard. L'intrigue n'est pas artificiellement complexe. L'univers du trafic et de la consommation de drogue à Téhéran nous est révélé. Et bizarrement, la loi coranique n'y peut rien. Il sévit dans la République islamique d'Iran, comme dans tous les autres pays, suivant les mêmes règles. Mais si la loi de Téhéran n'était que ça, ce ne serait qu'un simple documentaire. Là, on est dans le cinéma. La scène dans le ghetto des toxicos, qui paraît-il existe réellement, est dantesque. Imaginez des bus d'égout revisités façon HLM. Quant aux scènes de prison, elles renvoient Midnight Express au rang de bluette pour adolescents prépubères en mal d'émotion. Cerise sur le gâteau, les deux comédiens Peyman Mahadi et Navid Mohammadzadeh sont impressionnants de crédibilité. Une société iranienne qu'on ne pouvait pas imaginer, des toxicos qui se droguent, un baron de la drogue qui vit comme tous les barons de la drogue du monde entier dans un appartement hyper luxueux, une police corrompue, j'allais ajouter comme il se doit, et un final glaçant sous l'œil de Samad, le flic de la brigade des stupes. Il y a dans la loi de Téhéran une maestria impressionnante. C'est un premier film et on croise les doigts pour que Saïd Roustaï garde intacte sa fougue. On ne peut pas ne pas penser à un autre film qui produisait un effet identique, Le Caire Confidentiel. Et si l'avenir du cinéma était dans ces territoires de l'urgence, loin des millions de dollars ou d'euros, loin des tâcherons qui enchaînent les films, non pas comme une nécessité, mais comme l'impérieux besoin d'exister médiatiquement? Saïd Roustaï leur donne une belle leçon de simplicité et d'efficacité en leur montrant qu'il a su retenir de leur film le meilleur. La loi de Téhéran est un film hautement recommandable à tous ceux qui pourraient penser que finalement le cinéma c'est du passé, et moi de ce cinéma, j'en redemande.
Eh bien... Bonsoir Julien. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Merci pour ce film. Merci beaucoup. Alors, il faut que je te dise, Julien, je suis passé quand même devant chez toi. Je ne sais pas si tu vas me pardonner, mais j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il n'y avait pas de sapin. Il n'y avait pas de sapin chez toi. Et par contre, j'étais surpris parce que, agréablement, parce que ça ne t'empêche pas de faire des cadeaux de Noël. Et ce film est un cadeau de Noël. Qu'en penses-tu ?
Moi, je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vus cette année. Avec
le Caire.
Avec le Caire confidentiel. Le Caire et ça confidentiel. Tombe bien parce que c'est quand même l'analogie première à laquelle on pense, qui est un postulat à peu près identique où on suit un policier. Alors là, il se trouve qu'on est, on est plus au Caire, on est en Iran. Mais à la fois, c'est un film très différent et une ambiance très, très différente.
Alors moi, je te remercie parce que pour moi, c'est un cadeau de Noël parce que ce film, c'est du cinéma. C'est du cinéma comme on en fait plus beaucoup, enfin comme Hollywood n'ose plus en faire, si on peut se permettre de dire ça. Parce
que, tu généralises quand même, mais bon.
Mais non, alors, on est d'accord que pour un Christopher Nolan, il y a combien de déchets. Quand je dis Hollywood n'ose plus faire du cinéma, c'est juste parfait. Tu as la photographie est magnifique, la musique est magnifique, la direction d'acteur est magnifique.
Oui, alors moi je voudrais avoir une entrée un peu plus. On est d'accord.
Oui.
Quelque chose de précis. Le traitement en fait du personnage, moi il y a une chose que j'ai trouvé. Alors, une grande différence avec l'autre film, ce sont les glissements en fait d'un personnage à un autre. Personnellement, à chaque fois j'étais étonnée en fait de la passation de la narration qui n'est pas toujours tenue par le même personnage, même si globalement on suit c'est quoi le quotidien d'un policier qui travaille dans les stupes quelque part
oui,
en
absolument.
Iran.
Oui, oui.
Alors, un policier et des policières. J'étais très étonnée et on a constaté en fait ça a fait le même effet à tous. La première fois qu'on voit ces femmes, c'est des burkas. C'est ça ?
Je ne sais pas comment
en
ça s'appelle.
En fait, c'est les tenues intégrales. On voit les visages, hein, mais elles sont voilées des pieds à la tête, en noir. Et la première fois que je les vois, ils font une descente chez un suspect. Je me suis dit, mais quelle est cette habitante qui se met de leur côté ? Je ne comprenais pas, parce qu'elles disent jamais rien. Et en fait, juste, elles obéissent, quoi. Mais ce sont elles qui vont au contact des femmes, et des femmes suspectes, mais des femmes. Donc, il y a une espèce de cohorte, comme ça, de femmes... qui accompagnent et qui sont aussi dans la police, qu'on n'a absolument pas au Caire. Là, pour le coup, on a aucune présence féminine.
Dans le Caire, oui. Confidentiel, oui.
Ouais.
Enfin, de présence féminine dans les... Bah...
Ah, en termes de... chez les policiers.
Chez
je
ne
dis
policiers.
Pas dans les personnages, oui, mais oui. Chez les policiers. Mmh. Ensuite, il y a une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est autant le bordel non organisé est annoncé au Caire, autant là, au début, on a une impression d'organisation, c'est carré, c'est propre, ça roule. Hein. On voit la descente, c'est vraiment incroyable. La scène de départ, elle plante, je trouve, vraiment les choses en termes, quand tu disais, t'es cinématographique, comment ils chopent avec quelques angles, comment... le souffle est coupé, il se plaque au mur parce qu'il a juste vu l'ombre, on devine l'ombre, on suit.
Mais c'est ça, il n'y a aucun effet spéciaux dans ce film. Juste, ils font du cinéma. Ils font du cinéma avec des gens qui savent se servir d'une caméra, qui savent se... voilà.
Oui, puis qui a quelque chose à raconter.
Avec quelque chose, oui, le cerveau qui va derrière la caméra.
Oui, parce qu'en plus, c'est pas didactique. Il y a... Souvent, sont enfin, quand je parlais des glissements, souvent... C'est ce qu'on ressent, c'est au final. Mais c'est pas je vais vous montrer ça, je vais dénoncer ça. Par contre, c'est ce qu'on ressent.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait, j'ai l'impression que ce film, c'est un film sur la danse. Parce que c'est la danse entre la recherche de la vérité et le mensonge. Et puis, des fois, quand on sert du mensonge pour chercher la vérité, et il y a un moment où il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule et d'un seul coup, le chien renifleur qu'on utilise pour chercher la vérité peut se retourner contre le policier. Et ça, c'est assez fabuleux, quoi. Ça fait une narration qui est fabuleuse.
Oui, c'est pour ça que je parlais de glissement, en fait.
De glissement.
Où on pense que c'est tel personnage qui mène et puis hop, on a un autre. Et puis, ça va encore changer. On va avoir le point de vue de l'autre côté. Et ça continue, en fait.
On est d'accord.
Ce qui empêche le côté didactique. Et honnêtement, c'est un film qui dure plus de 2 heures. Moi, je m'étais dit, oh là là, il est super tard. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Mais... Une fois qu'on est dedans, on se pose même pas la question. Enfin, on est complètement aspiré. Enfin...
Ben, c'est très beau. C'est un film. Ce film est un hommage à Pina Bausch.
Ah oui, toi tu dis ça comme ça.
C'est de la danse.
Radio G 101.5 FM.
Et voilà.
on approche de la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous recevions par téléphone Franck Membrebe pour causer de Havanaise, son dernier roman paru au Orsin. Luc nous racontait sa toute première fois avec Peter Chenet. Et nous vous avons vanté ce film extraordinaire qu'est La loi de Téhéran de Saed Roustaï qui sort chez Wildside. À dans 15 jours, les amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se quitte avec Life in the Mirror de l'album Tenebris in Lux de Qual, qui est un projet solo techno-indus de William Maybelline, moitié masculine du duo Lebanon-Hanover. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G pour en savoir plus. Bye bye!
Radio G. 101.5 FM.
Only my mind can get away. I was flying.